Psychiatrine, une étude vient de sortir sur le poids des industries culturelles en France.
Réalisée par le cabinet de conseil EY, cette étude regroupe les bénéfices de 10 secteurs parmi lesquels le cinéma, le livre ou encore les jeux vidéo, sans prendre en compte néanmoins la mode et le monde du luxe. En agrégeant ces domaines, l'étude montre qu'en 2024, les industries culturelles françaises ont généré plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit presque 3% du PIB. Ces industries culturelles ont eu l'an dernier un poids économique deux fois supérieur à celui de l'industrie automobile.
Merci beaucoup Sophie Catherine, on vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. Il est 13h et vous êtes sur France Culture.
Les midis de culture. Antoine Léris.
Mettre au monde, c'est le métier de Jill, sage-femme dans un hôpital de la banlieue parisienne. Ne pas mettre au monde, c'est le sujet de Marguerite, chercheuse à l'université, qui étudie l'histoire des avortements illégaux et prépare un colloque sur la loi Veil. Tandis que Jill enchaîne les gardes de nuit sous tension, Marguerite, elle, navigue entre ses amants avec liberté et tombe enceinte à 40 ans passés de l'un d'eux. Voilà pour un résumé très rapide de votre livre, Chloé Corman. Bonjour.
Bonjour Antoine Léris.
Je suis très heureux de vous recevoir dans ces midis de culture. Ce livre, c'est Mettre au monde, aux éditions Flammarion. Et je viens de le dire, c'est le destin de deux personnages qui s'entrelacent, qui s'entremêlent, qui se rencontreront peut-être, que vous racontez dans ce livre. Ma première question est toute bête, c'est duquel personnage êtes-vous partie? Enfin, de laquelle de ces deux femmes l'écriture a-t-elle commencé?
C'est indécidable.
Ouais.
Elles ont chacune des reflets de moi. Et surtout, elles répondent à une question qui est de revivre, ressaisir des fragments de l'expérience d'accouchement. Expérience qui est fracassante, enfin telle que je l'ai éprouvée, qui annule largement la capacité à se souvenir. Évidemment, on se souvient pas de notre naissance, mais les accouchements sont également largement effacés, je pense, de par peut-être un effacement culturel qui est que les représentations sont pas... Pour se saisir quand même d'une expérience, c'est bien qu'elle soit informée par la culture, par les récits, et c'est pas si présent. Et puis émotionnellement, physiquement, c'est si dur que il y a beaucoup d'oubli qui se glisse dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir un personnage qui accouche et une autre qui l'assiste dans son accouchement. Peut-être que entre ces deux femmes, en leur confiant à ces deux-là la saisie de cet acte, il y aura pas un tableau complet, mais en tout cas il y aura l'intérieur et puis la saisie technique, par d'autres voies aussi de savoir, par la sage-femme. Enfin, le nom indique déjà ce métier. Mmh. Et alors, il y en a une qui a deux enfants. C'est la sage-femme. C'était ma condition quand j'ai commencé à ce roman. Il y en a une qui est une sorte d'avatar d'écrivaine, puisque Marguerite, elle est historienne. Et donc, ce qui comptait aussi, c'est que toutes les deux, c'est des grandes techniciennes. Il y a une technicienne et de représenter des femmes qui sont dans la joie de cette maîtrise. Voilà à qui j'ai voulu proposer d'essayer de rattraper cette fugacité, cette labilité, cette presque transparence dans la mémoire de ces instants. Vous dites qu'elles sont tramées. Je sais pas, enfin on m'en mêlait, je ne sais plus quel était votre terme. En fait, elles se croisent peu. Je trouve que le roman, c'est toujours... Il y a, dans le geste romanesque, il y a quelque chose d'un petit peu... un petit peu névrotique dans la projection et la maîtrise du futur. Et donc, Et je trouvais que ça faisait injure à ce que c'est que l'expérience de la naissance, de l'accouchement qui surgit... implique beaucoup de choses sur l'instant, et donc je voulais trouver un autre dispositif Et ne serait-ce parce que, en général, en tant que romancière, j'aime pas quand ça. Donc, elle se croise à un moment, c'est des sphères qui se rencontrent, mais pas tellement tissées.
Chloé Corman, justement, vous disiez lors d'une interview, vous avez dit que vous aviez besoin de revenir par l'écriture sur ce moment de l'accouchement. Et vous avez accepté de nous lire un passage de votre livre. J'aimerais que vous puissiez le faire et on parlera justement après de ce besoin de mettre des mots là où il n'y en a pas.
Alors c'est un passage qui est tout au début du livre, c'est Gilles, donc la sage-femme, qui rentre d'une garde de nuit au petit matin. Elle a encore dans les oreilles les cris, et sous les cris, les pulsations électroniques qui émettent sans arrêt les terminaux des salles de naissance. Ses mains, elles, sentent la bétadine malgré tous les rinçages qu'elle leur a administrés, et sous la bétadine, elle continue de sentir le goût ferreux du sang, l'ammoniaque, les fesses et la javel passer dessus au petit jour, comme un rêve qui ne s'efface pas. Elle a dans les yeux des vulves expulsantes. Les sommets de trois têtes apparues cette nuit se confondent légèrement. Crâne aux chevelures humides et couronnées de poils, noirs, bruns, blonds, puis les faces violacées qui se mettent à hurler. Pour Gilles, rien de sa vie ne peut changer, tant ses visions sont anciennes. Elles ont ses 15 ans de carrière de sage-femme, comme elles ont 100 ans, ou 12 000 ans. Rien ne peut les altérer, ni altérer ce qu'elles désirent. Continuer sa tâche. Une épaule appuyée contre la paroi de la porte, planque inespérée dans le wagon plein, elle peut tourner la tête et découvrir entre deux stations son reflet éberlué, ce visage hanté à l'envers, non par les morts, mais par ceux qui naissent, aussi troublants, irruptifs que des fantômes.
C'est justement parce que vous parliez de cette absence de souvenir qu'on a de ce moment-là, comme de sa propre naissance, lorsqu'on donne naissance. Est-ce que c'est pour ça que vous aviez besoin d'approcher ce moment-là, de mettre des mots au travers de ce personnage qui, elle, accouche, permet à la vie d'advenir?
Oui, c'était un souhait de réussir à me restituer à moi-même ces émotions, ces sensations. Essayer de comprendre aussi ce que j'avais traversé au travers de la grossesse. Alors il se trouve qu'en écrivant ce roman, j'ai attendu un troisième enfant, ce qui n'était pas totalement prémédité, mais ou en tout cas concevable quand j'ai commencé l'écriture, voilà. Mais même finalement, même en étant enceinte, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas forcément. De toute façon, c'est un thème qui subit le stigmate de tout ce qui est féminin, donc il a pas forcément droit à ses représentations. Il y a aussi donc oui, j'avais envie de vivre ça, mais d'essayer de le ressaisir. Pour ça, j'ai voulu faire un livre qui soit profondément au présent. Je voulais pas tricher non plus avec je connais le résultat ou j'ai lu je me suis beaucoup documentée et ça y est je peux tout mettre en perspective. Je voulais vivre. J'ai fait un livre qui est profondément au présent, c'est-à-dire enfin qui est, il l'est grammaticalement, on va dire, mais aussi je voulais faire vivre tous ces présents qui sont une grossesse, il y a le continu du jour le jour. Et qui fait que on voit à peine la différence d'un jour sur l'autre. Ça, c'est le présent clinique, on va dire. Je voulais faire entrer le présent de l'actualité. Le livre est écrit presque en prise avec 2024-2025, la grossesse de Marguerite et tout ce qui rentre dedans en termes de, enfin, d'horreur, en fait. Faut bien le dire. Des événements de ces années. Et puis le surgissement, un régime du présent qui est quasiment d'apparition, en fait. Et à la fois, je voulais sortir la naissance de justement, je parlais du stigmate du féminin. Mais je me disais, dans la littérature, dans les histoires, la guerre, l'amour, c'est des métaphores qui appartiennent à tout le monde, qui peuvent se transformer en tout pour parler de tout. Et pourquoi la naissance ? On pourrait pas essayer de le redistribuer de cette façon-là ? Et qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit un objet ? Et c'est vrai que c'est un objet de transfiguration, de soi-même, de métamorphose. Qui peut se prêter à plein d'usages collectifs, masculins, politiques, féminins, masculins, enfin voilà. Je voulais qu'il puisse se distribuer.
Pourquoi n'écris-tu pas ? Écris. Écris-toi. Il faut que ton corps se fasse entendre, mais l'autre en vie. C'est l'épigraphe d'Hélène Cixous qui ouvre votre roman, et je voudrais justement qu'on l'écoute et qu'on en parle juste après.
Premièrement, je ne les écris justement que dans un mouvement absolument, enfin un mouvement de corps, hein, c'est-à-dire que si ça ne vient pas du fond de mon être, alors il n'y a rien. Alors ça fait partie de ma mystique, si on peut dire, ou de ma philosophie, c'est que je me dis que c'est le seul moyen de ne pas mentir. De toute façon, ça ne vaudra rien. Il faut y aller en y mettant toute sa fièvre. Bon. Seulement à ce moment-là, évidemment, on est à la merci aussi, justement, de tous les dangers, de toutes les scories du présent, et puis on n'est pas toujours vrai, on ment même au moment où on dit la vérité, etc. Donc après, ben, tout simplement, je fais le retravail, et comme je suis une vieille routière de l'écriture, j'ai appris à le faire très rapidement, c'est-à-dire, très franchement, quand j'ai commencé à écrire, il y a... je ne sais plus quand. Je ne savais pas faire ça. J'étais justement toujours comme ça dans le bouillonnement, dans l'éruption, et puis maintenant, j'arrive à la fois à bouillonner et à regarder, ce qui est purement une question d'entraînement, enfin. Et ça suffit pas. C'est vrai que là, j'attends que le texte soit détaché de moi totalement, enfin, que je n'ai plus, comme ça, ces espèces de liens qu'on a toujours avec un texte, qui sont des liens de maternité, enfin, bon, qui sont... Et on embête toujours l'enfant, quoi, et on s'embête avec l'enfant. Et donc, une fois le texte vraiment éloigné, alors, je le traite aussi mal que possible. C'est-à-dire, je le corrige, j'ai à son égard le regard le plus féroce que je peux trouver, et qui n'est sûrement pas assez féroce, et puis je me donne des tas de plaisir, quoi. Je le coupe en petits morceaux, etc.
Le bonheur d'entendre Hélène Cixous, extrait de l'émission Théâtre ouvert sur France Culture, le 18 novembre 1982. Il fallait passer par le corps, parce que c'était le seul moyen de ne pas mentir, comme le dit Hélène Cixous.
Alors, bonheur partagé, hein. Ouais. Merci pour cette archive. Et je suis émue de l'entendre, vous l'avez dit, c'est des citations du Rire de la Méduse qui ouvrent mon livre. Et c'est des citations qui sont... elles parlent de coupe, elles sont prélevées dans différents endroits du manifeste. Mmh. Et vous savez, le Rire de la Méduse a eu 50 ans. Et j'ai eu le bonheur de participer à son séminaire en hommage aux 50 ans de ce manifeste, où elle a raconté à quel point ça l'a marqué et ça a été important pour son écriture. J'en viens à cette écriture par le corps. En fait, nous a dit que ça avait été premier d'avoir été une fille de sage-femme. Hein, elle a beaucoup parlé de sa Homère. Homère, sa mère était sage-femme. À 14 ans, sa mère l'amenait avec elle à la maternité d'Alger, l'assister. Elle dit qu'elle mettait un petit masque pour pas qu'on croie qu'elle était une fille. Mais et comment voir les femmes accoucher, voir comme elle l'a dit, voir que les femmes ne savaient pas accoucher. Et ce savoir de l'accouchement, il reste une question compliquée aujourd'hui. Combien ça l'a marqué. Alors, passer par le corps, bah oui, c'est... moi, je me reconnais, sans avoir ce flow tellement génial de son écriture, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai essayé de faire quelque chose comme ça. De faire quelque chose comme ça, moi, dans l'écriture de mon livre, de me dire qu'est-ce qui peut imiter l'intensité de ce qu'on éprouve dans l'accouchement, mais aussi je vous parlais de la présence de l'actualité vécue dans le corps, et j'ai essayé quelque chose. Alors je vous parlais du temps présent et pas de l'imparfait, pour pas pour pas quelque chose qui annexe le futur, mais qui se déroule vraiment sur le vif. Et puis essayer de traquer tout ce qui fait que le français est tellement causal, comme si tout était articulé, alors qu'on sait bien que en fait dans la vie c'est pas comme ça. Donc j'essaie d'enlever tout ça, quoi.
Chloé Corman, votre roman Mettre au monde, paru chez Flammarion. Vous avez fait l'école normale supérieure en étant jeune. Vous avez commencé à écrire très jeune. On ne se refait pas, vous êtes une intellectuelle. Et donc, il y a ce personnage de Marguerite dans votre roman qui, elle, est engagée, travaille autour d'un colloque sur l'anniversaire de la loi Veil. Parce qu'il y a aussi une dimension politique à ce roman, ce roman au présent, mais qui n'a pas peur justement de savoir ce qu'il doit au passé. Je voudrais qu'on écoute Annie Chemla et qu'on puisse en discuter juste après.
On est en 1973, le MLF existe déjà depuis quelques années, et une amie, une collègue m'emmène dans un groupe de parole du MLF. Dans la même période, ma voisine Gisèle me propose de devenir intermédiaire pour le MLF, et elle m'explique que des médecins pratiquent à Paris des avortements illégaux, des jeunes médecins en formation et qui voulaient remettre en question le mode d'exercice de la médecine qu'on leur proposait. Ils avaient vu, pour la plupart pendant la formation, des femmes mourir d'un avortement mal fait. Et donc, ils ont décidé de pratiquer des avortements illégaux. Et ces médecins ont besoin de femmes pour aller chercher les avortantes à un point de rendez-vous, les accompagner dans l'appartement et rester avec elles pendant le temps de l'avortement. Et puis, dès que j'ai appris l'existence du MLAC dans mon quartier, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, j'y suis allée. Et j'y ai milité donc de 73 jusqu'à après la loi Veil. Nous allions tous les dimanches sur le marché d'Aligre. Nous suspendions nos torchons sur lesquels étaient écrits nos slogans. Nos slogans, c'était « Notre corps nous appartient ». Des enfants quand on veut, si on veut. Et on interpellait les passants et les passantes pour raconter notre combat pour que l'avortement devienne légal en France.
Annie Chemla, extrait des Pieds sur Terre sur France Culture, c'était le 18 septembre 2024. Je voulais qu'on l'entende pour vous poser cette question. Pourquoi, justement, au travers de ce personnage de Marguerite, revenir sur cette histoire, de cette histoire du droit des femmes à disposer de leur corps?
Parce que d'abord, il est menacé. Aujourd'hui, c'est pas la peine de d'en parler. On sait qu'il est interdit dans plein d'endroits des États-Unis. Il est difficilement accessible dans plein d'endroits d'Italie. Il est toujours pas d'actualité en Pologne. Enfin, je m'éprouvais avec un certain vertige. Comme une enfant, c'est un peu paradoxal, mais comme, et Marguerite, ça le dit, comme une enfant de l'avortement. C'est-à-dire, c'est quoi de faire partie de cette, de presque faire partie de cette première génération qui arrive après que, il y a aussi l'accès à la contraception, qui est née du choix. Il y a là, et dans ces années 70, c'est fascinant. J'ai pu aussi, c'était l'occasion de parler avec des témoins, enfin comme Annie Chemla, des gynécologues qui ont accompagné ce moment. C'est une faille anthropologique, ces années 70. Bon, aussi parce que dans l'obstétrique en général, et ça fait partie aussi de disposer de son corps, il y a enfin l'échographie, la péridurale, tout ça. Mais bon, il y a aussi ce moment humain incroyable, où on se met à pouvoir choisir ou pas d'avoir des enfants. Et cette question est déjà suffisamment en elle-même assez complexe quand on a le choix, puisque juste en 76, c'est 76 ou 78 où il y a des millions de gens qui se disent « mais nous voulons désirer nos enfants, mais comment ?» Voilà, parce qu'en fait, on sait bien que le désir est complexe et que... Et déjà, ce simple fait d'avoir accès à l'avortement, bon, et ça fascine pareillement Marguerite qui étudie, qui prépare un colloque sur les 50 ans de la loi Veil, et qui a conscience, enfin c'est ça, c'est vraiment le signe ultime de l'oppression que... et c'est un marqueur, ces années 70, et puis le renouvellement des agressions dans le temps présent. Quand un geste est devenu aussi facile, parce que ce dont elle parle à Anishella Shemla, c'est la méthode Karman. C'est à ça qu'on voit qu'une oppression est d'autant plus insupportable. C'est ça qui s'était passé. C'était devenu très simple, très en sécurité pour les femmes. Alors, pourquoi les empêcher? Et donc, Marguerite Ritt, elle enquête là-dessus. Vous l'avez dit, elle confronte la question au présent, aux aléas d'une commémoration et de ces glissements de récupération politique. Et puis, elle heurte ça en elle-même à sa propre expérience de la grossesse, et j'avais profondément envie de représenter la maternité dans cette chambre d'écho de l'avortement, de la possibilité de ne pas avoir d'enfant.
Vous êtes professeur en collège, vous êtes toujours professeur en collège?
Non, je ne suis plus professeur.
Vous avez enseigné pendant longtemps.
C'est une expérience importante.
Est-ce que vous avez une idée de justement comment vit cette histoire que vous rappelez aujourd'hui, au présent, sur le vif, chez les plus jeunes?
Je pense que aujourd'hui, cette question, elle est à saisir dans tout le gradient de l'hyper présence et à la fois hyper lacune. De l'éducation à la sexualité, au sentiment. Je pense que ce qui me paraît particulier pour les plus jeunes, c'est que oui, il y a une hypersexualisation des représentations mais à la fois sur ce que c'est que s'aimer, désirer avoir une famille, des enfants, je sais pas. C'est ce contraste, en fait, cet assemblage-là qui me paraît aigu et compliqué pour les plus jeunes.
Vous dites vouloir un enfant n'est pas vraiment un acte de la volonté. Ça, c'est très, très intéressant dans votre livre, justement. C'est cette dimension. Oui, c'est un choix. Oui, c'est une décision. Mais est-ce que pour autant, c'est un acte de volonté?
Bah oui, désirer nos enfants, mais comment? C'est-à-dire, effectivement, ne pas désirer d'enfants, ça reste compliqué, en fait, pour une femme à affirmer. Donc, pourquoi je passe par là? C'est parce que désirer des enfants, est-ce que on est sûr que c'est tout à fait autonome de un attendu social? C'est difficile à démêler. Et après, oui, c'est un désir qui peut être pulsionnel et qui est très viscéral, qui est lié à des choses inconscientes qu'on ne maîtrise pas forcément. Ce qui me paraît difficile, en fait, aussi, c'est que on désire des enfants dans un vis-à-vis, je pense, intimement d'un rapport à d'une expérience philosophique de soi comme femme, d'une expérience poétique du monde. Et après, comment accéder à ça alors que la maternité, c'est tellement une affaire de récupération familiale, sociale, marketing. Ce qui me paraît important, c'est de pouvoir avoir accès à ça.
Je voudrais qu'on écoute un dernier extrait. Minou Petrovski et Agnès Varda, Femmes d'aujourd'hui, Radio-Canada. On est en 1977 et je pense que ça entre très bien en résonance avec votre livre.
En sortant, j'étais révoltée. J'étais vraiment presque en colère. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça qui se vit encore? Qu'est-ce que c'est que ces portraits de femmes encore? Je ne crois pas à la solidarité des femmes. Je ne crois pas...
C'est ton problème. C'est vraiment ton problème ou votre problème, je ne sais pas comment on se dit ici, mais la solidarité des femmes est une chose qui existe. D'abord, elle a toujours existé, elle a été occultée, elle a été camouflée. Les lois et la forme de la société ont rendu cette solidarité difficile parce qu'on a mis les femmes en compétition, comme si l'essentiel était de savoir combien d'hommes on aurait, ou lequel on épouserait, qui serait la plus vite mariée, la plus vite, je sais pas quoi. Dans les milieux bourgeois, c'est la plus vite, je sais pas moi, un vison, un diamant. Dans d'autres milieux, c'est un frigo, je sais pas quoi, une machine à laver. Mais cette compétition qui a été forcée, j'ai donc, par le système de la société, est en train de... Les femmes sont en train de la changer et de transformer cette relation compétitive en une solidarité très chaude, ce qu'en Amérique, ils appellent sisterhood, et qu'il n'y a pas d'équivalent en français, parce qu'on dit... Ben, on dit la fraternité, mais on ne dit pas la sistéralité. Mmh. Et c'est bien la preuve que le vocabulaire a toujours donné crédit aux hommes qui étaient capables de s'entendre ensemble et pas aux femmes. Donc il faut changer même le vocabulaire, il faut inventer des mots, il faut inventer des façons de parler. Et je crois que si vous, tu, ne crois pas à la solidarité femme, c'est dommage pour toi, tu perds quelque chose de formidable, c'est tout ce que je peux dire.
Mmh. Gilles et Marguerite sont tellement différentes, et pourtant dans votre roman, tellement semblables en fait.
Elles sont liées par l'inquiétude politique. Ça, je pense que c'est un grand trait de leur ressemblance, de leur sororité, hein, parce que le temps a passé depuis cette archive et maintenant ce mot il circule, et s'il circule, c'est que quand même qu'il a une présence en société qui est plus forte, une pratique. Donc elles ont ce rapport anxieux qui leur fait des nuits difficiles. Je voulais raconter que mettre au monde, c'est toujours mettre au monde ici, maintenant, hein, avec les circonstances telles qu'elles sont, et qu'elles aient deux enfants comme Gilles ou qu'elles en attendant comme Marguerite, elles sont face à ce que Gilles appelle les deux guerres. L'Ukraine, Gaza, dans une angoisse terrible, et aussi de pas, enfin, être dominé par la peur, ça ne leur suffit pas, ça ne les satisfait pas, ça n'est pas une option. Mmh. Et c'est des femmes dans l'action. Et donc je disais, elles se percutent à un moment. Voilà, il y en a une qui va accoucher, il y en a une qui fait accoucher. On a compris où tout ça converge. Mais moi, ce qui a été très heureux pour cette écriture, l'écriture de ce roman, c'était de pouvoir rencontrer des témoins, des femmes comme celles qu'on a entendues là dans ces différentes archives, de vivre une solidarité par-delà les générations. C'est incroyable de pouvoir parler à celles qui ont vécu avant, après la loi Veil, de pouvoir parler à beaucoup de sages-femmes. Il y en a une aussi qui m'a permis de vivre une garde entière où j'ai vu des naissances. Et ça, c'était des moments de mise en circulation d'un savoir et de sororité, pour dire le mot qui est cherché, là. Mmh. Mais ça, c'est important, et de se dire que, secrètement, effectivement, il y a quelque chose qui lie ces deux femmes, ouais.
Merci beaucoup, Chloé Corman. Votre livre « Mettre au monde » est édité chez Flammarion.
Merci.
Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête, tu ne seras pas.
Les Midi de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. Aïssatou Ndoye, Boris Pinault, Jules Barbier, Lise Ripoche, Zora Vignet, Marceau Vassy et Margot Chaboch. Elle est réalisée aujourd'hui par Laurence Malonda avec Sofiane Aktib à la technique.
Tu n'es que ce qu'on en pense, non. Tu n'as pas de nom, déjà.
Vous êtes bien sur France Culture. Question du soir, première partie, un débat. Les élus doivent-ils être à l'image du peuple ?
Quentin l'a fait.
Et dans la seconde partie de Question du soir, une discussion avec le prix Nobel de la paix, l'Ukrainienne Oleksandra Matvichuk. Et une question, comment faire vivre la démocratie en temps de guerre ?
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les Midi de Culture reviennent demain. En attendant, il est 13h30 et il est temps pour vous de retrouver Sonia Kronlund pour Les Pieds sur Terre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
La démocratie survivra-t-elle aux fake news ? La vérité est-elle définitivement enterrée ? Rien n'est moins sûr, mais la question se pose. Vous vous souvenez sûrement qu'au moment du débat contre Kamala Harris, le 10 septembre 2024, Donald Trump avait déclaré, je cite, à Springfield, dans l'Ohio, « Les migrants mangent des chiens, ils mangent des chats, ils mangent les animaux de compagnie des habitants, c'est ce qui se passe dans notre pays. » Fin de citation. Cette déclaration délirante avait été partagée plus de 2,2 millions de fois et avait reçu plus de 8 millions de likes. À la suite de quoi, la désinformation sur les immigrés et le soi-disant grand remplacement, ainsi que les thématiques complotistes et paranoïaques de l'extrême droite, avaient encore progressé. Et à la fin, les sondages pour Trump étaient montés. De nombreuses études le confirment, propager de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux pénètre plus rapidement et plus profondément que donner des vraies informations. Et quand il ne s'agit pas de manipuler l'opinion à des fins politiques, les infox, comme on dit, ça sert à engranger des clics, des vues et à générer du cash. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec un jeune homme qui s'amuse sans grand scrupule à lancer des rumeurs, essentiellement sur le monde du sport, dans l'espoir de gagner quelques dizaines ou centaines d'euros. Un témoignage rare et passionnant sur une pratique apparemment courante que nous ne cautionnons pas, évidemment. Il est suivi du récit d'une journaliste dont l'identité a été dérobée pour propager une fausse information particulièrement sexiste et dégueulasse, pour tout dire, sur la première dame de France. Deux récits tout de suite pour Les Pieds sur Terre par Karine Lelouette.
Je m'appelle Valentin, j'ai 39 ans, j'habite dans la campagne rennaise. À l'époque, je faisais pas mal de petites vidéos, c'était vraiment les débuts des vidéos sur Internet, les débuts de YouTube, tout ça. Avec mes copains, on se filmait en train de faire du skate ou autre. Et du coup, on piratait les logiciels qui étaient payants à l'époque de montage, et on s'amusait à faire des petits montages. On les postait pas forcément, on les gardait pour nous, on s'amusait à les regarder entre nous. On se faisait des petits habillages style télévisuel avec des bandeaux, etc. Voilà, c'était plus de l'amusement. Et donc j'ai cherché pour faire les études là-dedans. Donc j'ai trouvé un BTS audiovisuel à Marseille. Donc, ce qui m'a permis vraiment de me professionnaliser dans le montage. Je me disais, comme je pense tous les gens qui rentrent dans une école d'audiovisuel, que j'allais faire probablement du cinéma. Mais quand on a 20 ans et qu'on se dit ça, c'est pas forcément le cas derrière. Et finalement, j'ai trouvé un emploi pour devenir monteur, en fait, en freelance, en auto-entrepreneur, pour faire du vertical, du format vertical, comme les shorts ou les reels sur Instagram. Et c'était pour la Coupe du Monde 2022. Donc faire des résumés, des interviews, etc. Je travaillais full remote à la maison, j'avais juste besoin de mon ordi. C'était vraiment du montage très très rapide, très dynamique. Voilà, c'était à destination de Snapchat principalement. Et j'ai un peu travaillé aussi sur YouTube et ça a commencé du coup à me mettre un peu pied à l'étrier dans l'univers du web en fait. Donc après, quand j'ai été embauché par une autre boîte, toujours en freelance, pour faire du contenu foot, encore une fois, c'est là où on est rentré en fait dans une dynamique un peu plus intelligence artificielle, où le contenu était un peu plus automatisé. Et en fait, ce contrat s'est fini au bout d'un moment. Et à la suite de ça, je me suis dit que en fait, ça marche quand même assez bien. Je me suis dit que j'allais faire la même chose de mon côté, mais j'allais prendre une direction un peu différente, un peu fake news, mais dans le monde du foot. Donc ma première vidéo, j'ai fait une vidéo un peu react par rapport à la victoire du PSG en Ligue des Champions en disant qu'ils n'avaient pas vraiment gagné pour voir si ça allait, ce qu'on appelle un peu du bait click. Le bait click, c'est en gros, on arrive à attraper l'attention du spectateur. Donc j'ai démarré par une phrase choc, le PSG n'a pas gagné. Et bon, ça m'a fait quelques vues, ça m'a permis de démarrer en fait la chaîne TikTok. Au début, je me suis dit que je voulais passer très peu de temps dessus. J'ai toujours mon emploi en tant que monteur, je travaille pour des youtubeurs, donc je suis rémunéré pour ça, c'est vraiment mon job à plein temps. Je fais ça à côté, dans mon temps libre. Et donc, je me suis dit que j'allais être vraiment quasiment full intelligence artificielle. Donc, j'ai fait le logo via intelligence artificielle. Tous les sous-titres étaient faits par l'intelligence artificielle. Je demandais un script. Donc je demandais à ChatGPT de me... Je lui donnais juste une idée. Écris-moi une vidéo courte sur le transfert de tel joueur dans tel club. Et même si c'est pas vrai, ChatGPT, il s'en fout. Il est pas là pour dire des choses vraies, de toute façon. Il est juste là pour faire la conversation. Et donc, je suis pas là pour faire une vidéo où les gens ils vont dire « Waouh, incroyable, très beau montage » ou « C'est vraiment que de la news ». C'est dans une optique de monétisation, principalement, de toute façon. Les abonnés, il faut en avoir 10 000 pour être monétisé. Et après, il faut arriver à faire 100 000 vues dans le mois pour gagner de l'argent. La rémunération de TikTok, c'est la plus avantageuse de toutes les plateformes. Sur 1000 vues, on va être à peu près à entre 15 et 30 centimes pour les 1000 vues. Mais il y a ce qu'on appelle les récompenses supplémentaires. C'est-à-dire que selon le public qu'on cible, les pubs qu'on va leur donner, ils vont cliquer dessus et ça va rajouter en fait des revenus donc grâce à la pub. Et on peut monter assez facilement en fait à 1$ pour 1000 vues. Donc une vidéo de 150 000 vues peut faire 150$, ce qui est assez bien. Alors je vais commencer à monétiser la chaîne quand elle aura 10 000 abonnés. Là j'en suis à un peu plus de 5 000. Alors j'ai aucune idée de combien je peux gagner, mais je pense que je pourrais faire peut-être 100-200 euros par mois. Si je peux arriver à mettre, en faisant une demi-heure par-ci par-là, entre 100 et 200 euros, bah, à la fin de l'année, ça paye des vacances, quoi. Il y a des gens qui gagnent 50 000 euros par mois avec TikTok. Ça, c'est incroyable. Après, pour arriver à percer, il faut de la chance, il faut du talent aussi, mais il faut être très assidu aussi. Moi, je fais une petite vidéo par-ci par-là. Voilà. Après, il y a des gens qui font des vidéos, qui en font une ou deux par jour, qui se mettent en scène aussi, eux-mêmes. Et donc ça va être beaucoup plus engageant. En fait, le public de TikTok, ils aiment bien suivre des gens qu'ils voient, qu'ils connaissent. Ils vont créer une communauté, en fait. Donc ça, c'est pour tout ce qu'il y a sur le web, en fait. Pareil pour YouTube, etc. Une fois qu'on a explosé avec TikTok, de toute façon, il n'y a même plus besoin de travailler derrière. Il faut rester sur sa chaîne TikTok. Moi, je fais ça... je trouve ça marrant, ça m'amuse un peu, ça me mettra un petit peu de beurre dans les épinards, mais j'aime bien ce que je fais à côté. Donc ça, je pense qu'au bout d'un moment, peut-être, je sais pas, dans... 4-5 ans, je m'en lasserai. Après, j'en sais rien. Dans tous les cas, je veux pas que ça prenne beaucoup de temps dans ma vie. J'ai déjà fait une vidéo en 10 minutes chrono qui a pu marcher, je sais pas, 10, 20, 30 000 vues. Alors, je fais le script. Une fois que j'ai fait le script, je vais sur un site qui s'appelle Eleven Labs. Donc, je tape mon script et du coup, il va me lire tout le texte sans erreur. Donc, je mets une voix vraiment assez neutre. Une fois que j'ai généré cette voix IA, ça va m'envoyer un fichier audio en fait que je vais pouvoir mettre dans mon logiciel de montage. Et ensuite, je vais chercher des rushs sur Internet, des photos, des vidéos, alors principalement sur YouTube et Google Images.
Que vous volez du coup ?
Qui sont volés. Alors des fois, il y a des vidéos que je mets parce qu'il faut faire attention à ne pas se faire strike pour contenu volé justement. Donc les vidéos, en général, je vais mettre des vidéos des clubs. Il n'y a pas de copyright ni rien. Je vais mettre des vidéos de gens qui ont filmé depuis les tribunes, ce genre de choses. Si je mets des vidéos, par exemple, de match, il y a des chances que je me fasse strike par la FIFA ou les ligues de foot. En général, ça va me prendre entre 20 et 30 minutes, grand maximum. Et donc, 5 jours après avoir fait ma première vidéo, j'ai lancé sur une rumeur qui est un peu un serpent de mer, c'est le rachat de l'Olympique de Marseille par les Saoudiens. Et alors j'avais lu sur un site qu'il y avait une personne proche du pouvoir saoudien qui avait dit que ça pouvait se faire. Donc j'ai repris cet article, j'ai demandé à ChatGPT de m'enrober un peu tout ça. Et j'ai lancé cette vidéo et qui a fait 73 000 vues.
On peut l'écouter ?
L'Olympique de Marseille va enfin être vendu à un fonds saoudien. Après des mois de rumeurs, Franck McCourt pourrait céder pour de bon le club phocéen à un puissant fonds souverain saoudien, marquant un tournant historique pour l'un des clubs les plus emblématiques du football français. Après l'échec des négociations à l'été 2022, l'actionnaire serait cette fois-ci sur le bon chemin. Selon un proche du royaume saoudien, M. Aldebassi, le PIF aurait jeté son dévolu sur le club phocéen. Aldebassi était déjà un insider de la vente de Newcastle à l'époque. Il cite « Je parle librement ». Personne ne me donne de feu vert.
Il y a des trucs vrais là-dedans ou pas ?
Il y a des trucs vrais où la personne là, en question, Aldebassi, s'était exprimée là-dessus, mais c'était 100% fake.
Du côté des supporters, l'annonce susciterait à la fois espoir et prudence.
Au niveau des commentaires, principalement, on va avoir des gens qui vont ce qu'on appelle du rage bait, c'est-à-dire que les gens ils vont rager dans les commentaires en disant que c'est pas vrai ou qu'on a fait des erreurs dans le descriptif.
Une nouvelle dimension qui leur permettrait de enfin rivaliser avec le rival parisien.
C'est vraiment une technique, le rage bait, où on va provoquer des commentaires qui vont faire monter dans l'algo, et en fait, c'est un effet boule de neige, en fait. Si l'info n'est pas relayée par un média comme L'Équipe, Eurosport, ou France Football, enfin j'en passe, et des meilleurs, en général, c'est qu'il n'y a rien d'avéré, en fait. Mais on est maintenant dans un monde où les gens, on leur bombarde tellement d'infos qu'ils ne vérifient rien, en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont y croire. Je ne sais pas si c'est vraiment TikTok, mais... Je les trouve vachement réactifs, les gens, en fait. J'ai l'impression qu'ils regardent ça le soir, ils regardent TikTok, ils scrollent, et ils commentent tout, n'importe quoi. Donc, j'ai essayé de faire du Lyon, du Monaco. Monaco, ça a complètement... Pogba qui signe à Monaco, ça a bidé complètement. Après, j'ai essayé de faire des choses un peu avec de l'audio. Ça a complètement bidé aussi. Sur TikTok, ce qu'on peut faire aussi, c'est poster ce qu'on appelle des carousels photos. C'est pas monétisable, par contre ça fait venir beaucoup d'abonnés. J'ai essayé en mettant les femmes de footballeurs, en me disant bon, peut-être ça va prendre, ça a pas du tout pris. Du coup j'ai arrêté de faire des carousels. J'ai mis un joueur, j'ai dit qu'il était uruguayen alors qu'il était portugais, exprès. Mais je l'avais pas fait exprès au début, c'est ChatGPT qui s'est trompé. Et je me suis dit que j'allais le laisser. Je l'ai laissé et ça a fait 176 commentaires sur cette vidéo pour 40 000 vues, ce qui est un bon ratio. Les gens ont... quasiment principalement commenté en disant « il n'est pas uruguayen, il est portugais ». Et ça a fait monter dans l'algorithme. Et ça, c'est très bon pour moi. Ouais. Moi, ça m'a fait des vues. Là, si ça avait été monétisé, on va dire, au maximum à 1$ le millier de vues, j'aurais fait 40€ sur cette vidéo. Ça m'a pris 20 minutes à faire la vidéo.
Vinicius a été aperçu à Paris. Il est ici pour signer avec le PSG. Le Brésilien était ce samedi dans la capitale pour discuter de son transfert au Paris Saint-Germain et il a été repéré. N'ayant pas trouvé de terrain d'entente pour une prolongation avec le Real de Madrid, Vini a décidé de claquer la porte. Et c'est tout naturellement que Nasser lui ouvre les portes. Un joueur comme ça, ça ne se loupe pas. Même si certains en feront les frais, Barcola serait du coup relégué en troisième choix à gauche derrière Gvara. Et toi, tu penses que c'est une bonne idée, Vinicius à Paris ?
Alors cette vidéo est drôle parce que j'ai fait 152 000 en disant que Vinicius allait signer au PSG. J'ai pris une photo de lui habillé normal avec une chemise, etc. Dans la rue, j'ai mis qu'il était à Paris. Alors là, on pouvait voir que la vidéo était fausse. Il y a des gens d'ailleurs qui ont vu qu'elle était fausse en allant... Il y avait une voiture derrière lui, en fait, ils ont regardé la plaque et ils ont vu que c'était pas une plaque française. Donc moi j'ai dit qu'il était à Paris. J'avais même trouvé une vidéo de lui dans Paris où il est avec des jeunes supporters... qui sont en train de faire des vidéos avec lui, mais qui n'avaient rien à voir avec le fait qu'il allait signer au PSG. Et je l'ai rajouté là-dedans, et ça a explosé. L'application que j'ai, moi, c'est TikTok Studio. J'étais chargé de TikTok pour voir, mais je n'utilise jamais TikTok moi-même. Donc c'est assez rigolo. Et là, c'est vraiment TikTok Studio, c'est vraiment pour poster les vidéos. Alors j'ai essayé de faire d'autres tentatives... notamment des vidéos sur l'astronomie, 300 000. Je crois que c'est la vidéo qui a le plus marché de tous mes comptes TikTok. Du coup, j'allais chercher des photos en haute définition de la NASA sur Mars. Je faisais des espèces de travelling avec mon logiciel de montage dessus. Et je mettais une voix IA par-dessus.
Voici les dernières images de Mars, capturées par le rover Curiosity, posées sur la planète rouge à 225 millions de kilomètres de nous. Il est à la recherche d'éventuelles traces de vie organique après avoir trouvé des composantes essentielles sur le sol martien.
Avec le son de Mars qu'on entend, voilà, en gros, c'est que ça. C'est que des images. Avec des travelling. C'est des vraies photos de Mars, par contre, prises par la NASA. Pourquoi cette niche fonctionne bien? Alors, c'est assez effrayant, mais il y a énormément de gens qui croient pas du tout que la Terre est ronde. Il y a énormément de gens qui pensent que la NASA, ils racontent que des cracks. C'est assez affolant. Et donc là, les commentaires en majorité sur ce genre de vidéos, c'était « Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment Mars ?» Il y en a un qui disait que c'est le désert d'Algérie. D'autres qui disent « Oui, oui, c'est ça, on va y croire. J'ai déjà vu cet endroit au Sahara marocain. » Donc ça, ça fait monter l'algorithme avec les commentaires. Et après, t'as tous les autres gens qui vont liker la vidéo ou qui vont répondre aux gens qui n'y croient pas en les traitant de complotistes, etc. Et donc là, vraiment, il y a un échange. Et là, il y a eu 700 commentaires là-dessus. Il y en a qui disent que c'est de l'IA. Enfin, c'est assez... c'est marrant, hein, parce que je vais quand même récupérer les images sur les sites de la NASA. La vidéo est fake parce que c'est pas du tout une photo récente. Le rover n'est plus en activité, c'en est un autre. Enfin voilà, c'est plein de fake news, en fait, en disant que la NASA nous a fait parvenir les dernières images. En fait, c'est ça, en fait, le pitch qui fait que les gens, ils vont regarder cette vidéo en entière. Parce que c'est ça, en fait, ce qu'il faut, c'est que les gens regardent la vidéo en entière. S'ils décrochent au bout de 2 secondes, l'algorithme, il aime pas trop. Alors, j'ai pas de scrupules à balancer des fake news. Je me donne moi-même des limites par rapport aux infos que je vais donner. Par exemple, sur le foot... Donc là, j'ai aucun scrupule à balancer des rumeurs, en fait. Même moi, je peux y croire parfois, et il y a des rumeurs qui sont avérées vraies au bout d'un moment, qu'au début, on pensait totalement fausses. Je ferai jamais de fausses vidéos politiques ou... Et puis en fait, en travaillant là-dessus, en travaillant sur mes chaînes TikTok, je me rends compte que les gens, ils sont très très crédules et que ça peut faire beaucoup de mal, en fait, si on balance certaines infos, c'est touchy. Donc j'ai pas envie d'être responsable de ça, en fait.
Mais vous n'avez pas l'impression, malgré tout, que vous contribuez à mélanger le vrai et le faux et que, du coup, il y a une espèce de défiance qui, ensuite, peut être créée parce que bah, les gens, ils ne savent plus où se situe la vérité, en fait.
Je n'oblige personne à croire ce que je suis en train de poster. S'ils font ne serait-ce que 30 secondes de recherche sur Internet, ils peuvent voir que c'est faux. En fait, les gens, ça peut aussi leur permettre de s'entraîner à vérifier leurs infos, à faire la part des choses, en fait, sur ce qu'ils vont voir. Je pense qu'à force de leur envoyer des vidéos fausses, les gens vont quand même, au bout d'un moment, ouvrir les yeux, enfin, j'espère.
Je m'appelle Audrey Parmentier, j'ai 31 ans et je suis journaliste pigiste. Alors je crois que c'était le 3 ou 4 juillet que je reçois une notification LinkedIn. Je tombe sur un message d'une consoeur que je ne connaissais pas et en fait elle m'alerte d'une publication qu'elle a vue sur internet qui me serait attribuée. Elle m'envoie le lien en fait juste après son message et donc je vois que c'est un article qui est publié sur un site qui s'appelle Enquête du jour. Je vois le sujet et après je vois effectivement mon nom et mon prénom et ma photo qui sont associés à cet article que je n'ai donc pas écrit. Je vois qu'il s'agit d'un article qui parle d'un médecin qui se serait suicidé. Apparemment ce serait soi-disant un assassinat maquillé. Et il s'apprêtait plutôt à faire des révélations sur la transidentité de la première dame Brigitte Macron, où il expliquerait qu'il a des preuves comme quoi Brigitte Macron serait une femme trans. Donc là, je comprends très vite que l'article est en train de relayer une théorie complotiste. Et on a également une vidéo. Donc sur la vidéo, on a une voix qui est pas mal trafiquée, une interview qui était vraiment très étrange. Et aussi, ce dont je me souviens, c'est qu'apparemment, c'était aussi des révélations que le médecin, je crois, s'apprêtait à faire au magazine Closer.
François Fèvre avait promis aux journalistes faire la lumière sur les opérations chirurgicales controversées de Madame Brigitte Macron. Voici un extrait de la vidéo de son entretien avec un journaliste du magazine Closer.
J'ai encore beaucoup d'informations sous forme de notes, de copies de dossiers médicaux. J'ai travaillé à l'hôpital américain de Paris pendant 6 ans et Dr Bouy était un de mes proches collègues. Il m'a transmis beaucoup d'informations sur ses patients.
Y compris sur l'épouse du président français.
Oui, il m'a parlé des changements physiques que Madame Brigitte Macron a subi lors de l'opération de chirurgie transgenre dans l'hôpital.
Vous parlez là de son opération de changement de sexe? Pouvez-vous me raconter un peu plus en détail?
En fait, moi, ça va me paraître fake très rapidement parce que je suis journaliste et que je suis plus ou moins sensibilisée, on va dire, aux questions des fake news. En fait, ce qui était le plus flagrant, on va dire, c'était la vidéo. Mais le texte était plutôt bien fait. Et même quand on regardait le site, il y avait un rubriquage qui était complètement similaire à ce qu'on peut retrouver sur des vrais sites plutôt d'information. Donc, il y avait une rubrique société, France, etc. Et en fait, c'est une autre consoeur qui a pris contact avec moi. Elle m'explique très vite que ce site a été créé dans le cadre de l'opération 1516. Donc, apparemment, qui est une opération d'ingérence russe qui est connue donc du gouvernement français, qui est assez documenté, surveillé. Et apparemment, ce serait un ancien shérif américain qui serait à la tête de ces méthodes. Et maintenant, il roulerait pour la Russie. Et en fait, la méthode est la suivante. C'est qu'il crée à chaque fois différents sites de fausses informations. Et il publie plein d'articles qui sont plutôt en lien avec l'actualité, qui sont générés par l'IA en essayant de copier un site d'information avec des vraies infos et au milieu de ça, de noyer, de lâcher un peu une fake news, une bombe, afin de déstabiliser peut-être le gouvernement français. En tout cas, l'idée, c'est de choisir des sujets qui fracturent, on va dire, une société et des sujets qui sont sensibles. Et ensuite, je commence un petit peu à regarder aussi le site de façon un petit peu plus approfondie. Et en fait, je me rends compte que j'ai énormément de papiers à mon actif, enfin de faux papiers. Donc, il y avait 12 pages de suggestions. Enfin, je pense que ça se compte par centaines. Et souvent, c'est des papiers qui reprennent, en fait, l'actualité française, l'actualité classique, en fait. Donc, ça peut être des incendies à l'époque dans l'Aude, parce que c'était l'été, donc c'était l'actualité. Ça pouvait être, je sais pas, une nouvelle loi sur la sécurité routière, des sujets environnementaux, des sujets liés à la géopolitique. Voilà. En tout cas, mon alias était assez polyvalent et productif. Petit à petit, je découvre aussi que je ne suis pas la seule. Je vois qu'il y a 5 ou 6 autres journalistes qui sont dans la même situation que moi. Et en fait, la plupart ont collaboré ou alors sont en contrat dans le média Street Press. Et en fait, c'est moi qui vais les informer que nos identités sont complètement usurpées. Moi, j'ai été mise au courant parce que j'ai été la fausse autrice, on va dire, de la fake news, en fait, qu'ils avaient envie de développer. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y avait pas cet élément-là, c'était compliqué de savoir que notre identité était usurpée. C'est assez silencieux, en fait. Mon premier réflexe a été de contacter la journaliste de France Info afin aussi de démentir assez rapidement en fait cette fake news et surtout le fait que j'étais absolument pas l'autrice de cet article. Donc je me rends compte très vite que l'article a beaucoup circulé parce que j'ai beaucoup de messages sur Twitter. Je suis mentionnée dans pas mal de posts aussi, plus que pour un simple papier. Et ce qui m'embêtait le plus, c'était le sentiment très vite, en fait, qui est monté d'impuissance où je savais pas, en fait, comment faire pour arrêter la diffusion de l'article. Je savais pas qui contacter parce que, comme je l'ai dit, je suis journaliste pigiste, donc j'ai pas forcément de rédaction non plus sur laquelle je peux compter. Et c'est là aussi où j'ai eu quand même de la chance dans mon malheur. Parce que voilà, Street Press a décidé de lancer des démarches juridiques et de porter plainte. Donc oui, c'est plus un sentiment d'impuissance et de sidération. Et ça a été accentué par le fait que j'ai contacté Twitter, je crois, et Facebook. Plus j'ai aussi fait un signalement sur le site Pharos. Donc c'est un site qui a été mis en place du coup par le gouvernement pour signaler des contenus illicites ou là dans mon cas donc des situations d'usurpation d'identité sur Internet ou de vol d'identité. Et j'ai pas eu de réponse. Le fait de ne pas avoir de solution à portée de main, ça me rendait un peu folle. Donc, dans ces moments-là, c'est vrai qu'on patauge un peu dans la semoule. Donc, en fait, j'ai changé tous mes mots de passe, de réseaux sociaux, notre prénom, notre nom, enfin notre identité. C'est un peu aussi une forme de contrat de confiance qu'on a avec le lecteur. Et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à « mais si les gens que je vais interroger dans les prochaines semaines voient cet article, est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce qu'ils vont avoir une forme de défiance à mon égard ?» Et puis aussi pour mes collaborateurs, j'avais pas forcément envie que ça entache, on va dire, mon travail. Et en fait, mine de rien, le fait que ce soit un faux article sur Brigitte Macron, bah pour certaines personnes, enfin mes parents avaient un petit peu peur, je sais pas, que je sois attaquée en diffamation ou quoi. On se dit mince, de quoi ma fille est accusée. J'ai pensé à contacter Brigitte Macron, mais je pense que c'était le premier jour. Je me disais que ça pourrait être pertinent de lui dire que j'étais désolée déjà pour cette fake news, même si j'y étais pour rien, et surtout que je l'avais pas écrite, quoi, que je n'étais absolument pas responsable de cette mascarade. Et en fait, c'était ça aussi la question, c'était de comment on prouve en fait qu'on n'a pas écrit un faux papier. Même si j'ai pas mal de soutien autour de moi, j'ai l'impression que la situation m'échappe. Et donc du coup, tous les jours ou tous les deux jours, je regarde si l'article est toujours là. Je tapais tout le temps la même chose, quoi. Audrey Parmentier, Brigitte Macron. C'était devenu mes mots-clés, quoi, en fait. Je voyais que ça remontait hyper haut. Ça m'inquiétait que ça remonte, que ce soit aussi bien référencé. Je regarde les faux articles aussi que je continue de faire parce que ça continue, en fait. Je me souviens d'un journaliste de Reporters sans frontières qui m'a contacté gentiment pour un petit peu discuter avec moi sur le sujet. Et en fait, il me disait clairement qu'il n'y avait pas énormément de leviers à activer et qu'il fallait juste attendre que le site se détruise tout seul. Parce que souvent, c'est leur méthode opératoire, c'est-à-dire que c'était des faux sites d'information qui se créaient sur un temps, on va dire, une durée limitée. Et en fait, une fois que la fake news, elle était sortie, et une fois qu'ils étaient aussi un petit peu cramés, en fait, le site se stoppait de lui-même et enfin disparaissait, quoi. Et puis un jour, voilà, je sais pas du tout ce qui s'est passé, juste du jour au lendemain, le site n'existait plus. Il n'y avait plus rien qui m'associait à Brigitte Macron, quoi. Ça m'a soulagée, j'avais l'impression de clore un peu un sale chapitre. Par contre, ça m'a un peu fait prendre conscience de la fragilité de mon identité numérique et de la facilité aussi qu'on pouvait avoir à usurper l'identité de tel ou tel journaliste. Ça vient distiller en fait une forme de doute aussi sur l'information en général, et évidemment que ça fait du mal à la profession. Et j'avais l'impression que moi, en tout cas, je découvrais l'ingérence russe, même si j'en avais entendu parler dans les médias, à la télé, etc. Mais que je découvrais un peu le problème. Et c'est peut-être ça qui est un peu le plus flippant, c'est que je pense qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt.
C'était La Fabrique des Fake News, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Clémence Gross. Merci à Audrey Parmentier, à Valentin et à Alexandre Roussel. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel.
Thank you.
Aujourd'hui dans le Book Club, histoire et perspective d'un petit commerce aux grandes ambitions, la librairie indépendante.
Marie Richeux.
Longtemps considérées comme de simples points de vente, les librairies ont réinventé leur mission pour accompagner les lecteurs dans un marché du livre devenu vaste. C'est cette mutation que raconte la sociologue Sophie Noël dans un essai croisant la perspective historique à l'enquête de terrain. Elle est notre invitée.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. À la veille d'une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie.
Tu sais que maman, elle n'entend pas, maman.
Elle n'entend pas la moto.
Non.
Dans la beauté des paysages alpestres, l'histoire du clan se redéploie entre archives familiales et images filmées par la réalisatrice depuis 25 ans. Porté par la force intérieure de Manon, le film trace un chemin d'épreuve et de résilience. Elle n'entend pas la moto. Un documentaire fort et universel de Dominique Fisbach. Actuellement au cinéma, un film France Culture.
Tout de suite, Sylvain Bourmeau.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Parvenu à l'issue de mon doctorat et ayant ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage pour ce qui dépendra de moi dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Voilà le serment que j'aurais à prononcer devant mes pairs si d'aventure un jour, c'est assez peu probable, je devais enfin soutenir ma thèse. Depuis l'adoption il y a 5 ans de la loi de programmation de la recherche, le Code de l'éducation a ainsi institué un serment doctoral devant être prononcé publiquement par la nouvelle ou le nouveau docteur devant ses pairs, c'est-à-dire le jury